We Do Biz, premier sur les entrepreneurs.
Les entrepreneurs bougent, créent, partagent sur We Do Biz.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Thomas Benzazon et c'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour votre émission en direct Entrepreneur, le live. Les candidats à la primaire du MEDEF se suivent sur We Do Biz mais ne se ressemblent pas. Après Jean-Claude Volo, la semaine dernière, nous recevons un nouveau prétendant au poste de patron des patrons. Notre invité du jour est un ancien élève de l'école supérieure de commerce de Paris. Après une carrière chez Shell, Europe Restauration puis Butagaz, il devient PDG de Gazinox. En 2008, il est happé par les sirènes de l'entrepreneuriat et fonde Acoba. Chargé du Small Business Act par Laurence Parisot en 2010, il avait juste auparavant, en 2009, souhaité un débat au MEDEF pour les élections à venir, auquel il ne se présentera finalement pas. Cette année, il souhaite porter son projet qu'il a intitulé « Entreprendre ensemble ». Thibault Langsad est donc avec nous pour 30 minutes afin de présenter son projet pour vous, les entrepreneurs. Thibault Langsad, bonjour.
Bonjour Thomas.
Nous allons évoquer les détails de votre projet pour les entreprises, mais avant cela, un mot sur la direction que vous souhaitez prendre. Serez-vous plutôt dans la continuité ou plutôt dans la rupture, comme Jean-Claude Volo l'a dit la semaine dernière, avec la dernière présidence?
Je crois que le MEDEF doit redevenir la maison des entrepreneurs. Donc, je ne sais pas si ça s'inscrit dans la continuité ou dans la rupture. Ce qui est clair, c'est que on doit faire évoluer cette organisation qui, après trois crises successives, après un bilan qui n'est pas forcément négatif, d'ailleurs, il faudra le souligner tout à l'heure, qui a besoin d'une réoxygénation dédiée aux entrepreneurs. Alors, les entrepreneurs ne sont pas forcément uniquement ceux qui créent leur boîte, sont également ceux qui le gèrent. Et on peut être entrepreneur dans un très grand groupe. Mais il faut que ce MEDEF redevienne véritablement la maison de tous les entrepreneurs. Donc ça, je pense que c'est un point que je vais marteler pendant toute cette campagne.
Et pendant toute cette émission, j'en suis sûr. Donc restons sur le bilan. Que pensez-vous de l'action de Laurence Parisot?
Comme je le disais, il faut voir 8 ans, c'est long. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Et puis quand on regarde le contexte économique, on a eu 4 crises économiques majeures. La crise des subprimes, la crise des obligations, la crise économique, la crise du système bancaire. Et donc le bilan de Laurence Parisot est un bilan, il y a du bon, il y a un peu de moins bon. Il y a un bilan social, sociétal qui est bon. Il y a la rupture conventionnelle. Il y a les accords qui viennent d'être signés et qui sont en train de passer au Parlement, enfin qui sont passés à l'Assemblée, maintenant qui vont passer au Sénat. Et donc il faut juger ça comme quelque chose de positif pour le MEDEF. Et puis en parallèle de ça, dans ces périodes de crise que l'on a traversées, on a peut-être aussi un peu moins travaillé ou priorisé des sujets plus économiques en prise directe avec la réalité quotidienne des entreprises. Et on a eu un MEDEF si sur beaucoup de sujets, puisqu'on a eu un gouvernement précédent sous Nicolas Sarkozy qui était très très proactif, qui a été beaucoup en réaction et peu en proposition. Et je pense que à l'avenir, il va falloir qu'on soit en proposition, qu'on soit proactif vis-à-vis de nos dirigeants.
Thibault Langsad, des propositions, justement, vous en avez faites à Laurence Parisot quand vous avez été chargé, on l'évoquait tout à l'heure, du Small Business Act à la française. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'elle a pu faire de vos propositions?
Là-dessus, est-ce qu'on d'abord, peut en rappeler d'abord, quelques-unes? Quelques-unes, en fait, contre le Small Business Act, c'était d'expliquer ce que l'Europe faisait pour les entreprises et de faire en sorte que les chefs d'entreprise comprennent. Alors, il y a des points qui sont dans le Small Business Act et qui vont dans le bon sens. Quand on parle aujourd'hui de simplification administrative, de choc administratif, dont on parle le président de la République, on est dans la droite ligne du Small Business Act. Quand on parle de réarmer le financement des jeunes entreprises, on est dans la droite ligne du Small Business Act. Dans le rapport Gallois, quand on a parlé de l'accessibilité des jeunes entreprises au marché public, on est dans le Small Business Act. Quand on parle de la simplification des brevets, on est dans le Small Business Act. Donc on voit que ces propositions, ces 16 propositions que j'ai portées, eh bien s'expriment de façon au fur et à mesure, sont reprises par les organisations dans leur ensemble. Après,
c'est un premier bilan de Thibault Langsad.
Moi, entrepreneur, ça va toujours lentement. C'est-à-dire que l'unité de temps de l'entrepreneur n'est pas le même de celui de nos gouvernants. Donc, on a le sentiment que les mesures portées, c'est un peu un sachet de thé dans le tiède et ça s'infuse lentement. Donc, il faut être vigilant. Et puis, c'est un chantier qui doit être constamment porté. Mais voilà, voyons et constatons, c'était pas un catalogue de mesures qu'on pouvait mettre tout de suite en œuvre. Il y avait des grandes orientations et il fallait accentuer ces grandes orientations. Vous savez, quand le gouvernement dit il faut un choc de simplification administrative, Soyons très clairs, ou cash, les accords de Lisbonne sont très clairs là-dessus, c'est 20% de réduction administrative dans les 5 ans à venir. Donc le gouvernement, quand il dit « je vais faire un choc de simplification administrative », il ne fait que suivre les préconisations, enfin même pas les préconisations, les obligations européennes.
Vous-même, vous avez parlé d'un millefeuille patronal.
Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, c'est le millefeuille patronal, c'est l'organisation.
On reste dans l'idée de simplification
donc,
quand même.
C'est-à-dire que la simplification administrative, à partir du moment où on dit allégez-nous la vie, simplifiez au maximum. D'abord, c'est à l'état de se. La simplification, c'est aussi la modernisation de l'État. Donc, c'est pas que pour les entreprises. Soyons cohérents. Il faut faire des coûts de d'échelle, d'économie. Et donc, la simplification, c'est également la modernisation des services de l'État. Mais quand on dit à l'État, il faut que vous soyez plus simple, il faut supprimer les millefeuilles, rapprocher les départements et les régions, et puis revoir l'intercommunalité, les 36 000 communes, on pourrait dire, nous aussi, à notre mesure, il faut revoir un peu l'organisation patronale aujourd'hui en France, qui est un peu complexe pour les entrepreneurs. Et une des raisons pour laquelle je me suis lancé dans cette aventure, depuis maintenant plusieurs années, c'est que j'ai beaucoup de mal auprès des entrepreneurs. D'ailleurs, moi, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes adhérent au MEDEF ?
Nous sommes avec tout le monde.
parce que votre préoccupation première quand vous avez monté votre boîte, c'était d'essayer de d'établir votre modèle, de trouver un peu d'argent, de vous loger et puis de vous rémunérer. Et donc la priorité, elle n'est pas forcément de se tourner vers une organisation patronale. En revanche, c'est quelque chose auquel on doit être nous attentifs parce que vous êtes une entreprise qui va dans les années à venir progresser, ça j'en suis sûr et certain, et vous devriez vous préoccuper de ces organisations patronales.
Thibault Langsade, restons un moment et on va finir avec la précédente présidence et également la précédente reconduction de Laurence Parisot. On le disait tout à l'heure, à l'époque vous souhaitiez engager un débat et finalement vous ne vous étiez pas présenté. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ?
Oui, parce que en 2010 c'était un peu une élection intermédiaire. D'ailleurs, il faut voir les discussions qu'on a eues sur les statuts il y a encore quelques semaines. Donc dans la façon dont le MEDEF a construit sa ça, c'est le mandat du président, c'est que c'est 5 ans. Au bout de 5 ans, si on a fait le job, on fait une élection un peu intermédiaire. Et il est de coutume qu'il n'y ait pas de candidat si on est d'accord pour redonner quitus au président. Et on était dans cette élection intermédiaire. Et moi, la raison pour laquelle j'avais commencé à lever le doigt, c'était de dire, le but n'était pas de remettre en cause le mandat de Laurence Parisot, mais qui dit élection intermédiaire dit expression, dit débat. Et je considérais que cette élection intermédiaire pouvait conditionner, préparer l'élection qui est en train de se passer. Donc je dis, tout simplement, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes qui ont envie de s'exprimer.
Vous avez été entendu ?
Oui, j'ai été entendu d'abord parce que moi j'avais levé le doigt au mois de septembre pour une élection qui était au mois de juillet, donc j'ai eu le temps de m'exprimer sur un certain nombre de sujets et la préoccupation que je portais pour les petites et moyennes entreprises, ça s'est retrouvé au sein du Small Business Act. Donc oui, j'ai entendu. En revanche, je pense que je n'ai pas été tout à fait entendu sur les problématiques statutaires puisque on a retrouvé ces problèmes finalement 3 ans après.
Bon, les campagnes se suivent mais ne se ressemblent pas cette fois-ci. Vous êtes candidat, donc un mot sur la campagne en cours. Où est-ce que vous en êtes, Thibault Langsade ?
Alors, aujourd'hui, très concrètement, on va bientôt rentrer dans une phase de campagne officielle, bien qu'elle ait un peu commencé aujourd'hui, puisque la semaine prochaine, nous avons des auditions, tous les candidats. Il y en a à l'UMM le 18, qui sont d'ailleurs une heure après à la Fédération française du bâtiment. Et puis, on enchaîne dans les territoires. Moi, je vais beaucoup tourner dans les MEDEF territoriaux.
Les retours des médias, des entrepreneurs?
Pour le moment, la campagne va commencer dans les fédérations, puisque ce sont eux qu'il faut convaincre, et dans les MEDEF territoriaux. Je crois que le premier retour, c'est qu'il y a une véritable envie d'aller sur le fond. Autant sur les campagnes précédentes, on élisait un peu un porte-parole. Là, on a envie que le porte-parole, il soit plus que porte-parole. Il ait une vision sur le fond, qu'il est capable de fédérer une équipe, qu'il ait un projet et d'exprimer, au travers d'une profession de foi, des choses assez, assez fortes. Donc ça, c'est assez nouveau. Ça va passer par beaucoup de terrain dans les fédérations et dans les MEDEF territoriaux. Le calendrier, c'est que tout ceci doit nous conduire sur une élection qui devrait avoir lieu aux alentours entre le 1er et le 6 juillet.
Bon, je reste, vous parlez du fond, je reste malgré tout encore sur la forme. Qui fait la meilleure com parmi les candidats ?
J'ai envie de dire... J'ai envie de ramener la couverture à moi. Non, c'est un peu compliqué parce que d'abord, on n'est pas tous partis au même moment. Chacun a sa sensibilité, son mode d'expression. Mais vous savez, il faut pas se leurrer. La com, c'est une chose, c'est un élément important pour pouvoir toucher l'ensemble des chefs d'entreprise. Mais ceux qui vont être extrêmement attentifs au déroulé de cette campagne, ce sont les fédérations et les médias territoriaux. Donc, il faut quand même aller les voir. Donc après, en termes de représentativité, je crois que chacun est plutôt bien parti.
Parlons de votre com à vous, Thibault Langsade. Vous avez fait justement beaucoup de com, alors qui en ont fait sourire certains et qui ont dû en agacer d'autres. Je pense à la cagnotte que vous avez mis en place pour que Laurence Parisot prenne des vacances, ou d'ailleurs à votre déclaration de candidature dans laquelle vous lui proposiez des skis nautiques. Il faut innover quand on est challenger.
Oui, alors d'abord, je trouve que l'humour est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Donc c'était pas un gag. Il y avait des messages et dans cette situation qui était un peu tendue, il faut quand même le reconnaître. Mon mode d'expression, quand ça se crispe, c'est d'injecter un peu d'humour. Et je préfère, pour tout vous dire, envoyer des skis nautiques à Saint-Barth, ouvrir une cagnotte avec un gilet de sauvetage pour être sûr que on ait la tête au-dessus de l'eau, que de qualifier de dictateur, d'apprenti dictateur, on va dire, différentes personnes. Donc c'était mon mode d'expression. Alors certains se sont plutôt amusés. Je suis pas certain que c'est agacer, en l'occurrence, Laurence.
Thibault Langsade, si on doit rester un moment sur l'humour, pouvez-vous me regarder les yeux dans les yeux et m'assurer que vous n'avez pas planqué la cagnotte de Laurence Parisot en Suisse?
Alors, je suis très embêté pour répondre à votre question, parce que elle n'est pas en Suisse, mais j'utilise un établissement de paiement qui est agréé au Luxembourg et qui collecte cet argent. Mais cet argent, il y a une transparence totale, parce que cet établissement est agréé officiellement. Donc non, droit dans les yeux, cet argent n'est pas en Suisse.
Transition parfaite donc sur les sujets d'actualité. Pensez-vous que la défiance envers les entrepreneurs est à la mesure de celle envers les politiques depuis l'affaire Cahuzac?
Bah, c'est latent, en fait.
Est-ce que tout le monde a besoin de transparence?
Oui, mais le problème, c'est que... En fait, compte, la transparence, elle peut pas être la même chose pour un chef d'entreprise. Au nom de quoi et à quel titre? En revanche, en termes de moralisation dans la vie de l'entreprise ou de nos acteurs économiques, ce que l'on attend d'eux, et ça c'est très vrai en tout cas pour leurs collaborateurs, c'est être exemplaire dans leur savoir-être et dans leur savoir-faire. Le fait qu'ils aient un patrimoine très important, le fait qu'ils optimisent leur patrimoine... n'a pas lieu d'être mis sur la table. En revanche, ce que va demander de plus en plus les collaborateurs, c'est de l'exemplarité dans le savoir-être et dans le savoir-faire.
Alors on a un climat de suspicion quand même qui a incité Bernard Arnault à revenir sur son projet d'acquisition de la nationalité belge. C'est important que les entrepreneurs rappellent leur engagement pour la France et pour l'emploi.
En l'occurrence, Bernard Arnault, il a été traîné dans la boue. Moi, j'ai quand même la une de Libération qui pour moi passe mal.
Casse-toi
riche con, avec une allusion... qu'est signé, et je peux comprendre qu'il a été particulièrement baissé. Et la déclaration qu'il a faite hier dans Le Monde, d'abord, est assez courageuse. Et ensuite, moi, j'y vois là, finalement, là aussi, même s'il est au service de son entreprise, une reconnaissance de la mère patrie. C'est quelqu'un qui a utilisé une école de la République, une des meilleures écoles de la République, donc c'est de la méritocratie. Il n'a pas eu son concours dans une pochette surprise, donc c'est quelqu'un de brillant, de smart, et qui a développé un empire qui, aujourd'hui, paye qui contribue à 1 milliard d'euros d'impôts pour l'État. 90% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger, ce qui est une vraie performance. Et je pense que c'est un exemple qui doit être montré. Et la façon dont il a été traîné dans la boue, je trouve ça particulièrement odieux.
Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut faire plus de pédagogie sur l'apport de l'entrepreneur à la société?
C'est un vrai sujet. Alors moi, je pense que la pédagogie patronale, elle s'exprime par l'exemplarité dans le savoir-être et dans le savoir-faire. Vous savez, en France, on a dans nos origines judéo-chrétiennes une approche extrêmement complexe vis-à-vis de l'argent. L'argent était quelque chose dont on parlait pas, on n'exprimait pas son salaire. Il suffit de regarder ce qui se passe au début du siècle. Donc on a toujours eu des rapports très compliqués, ce qui n'est pas le cas des protestants. Qui ont une approche différente. Et donc on traîne un peu ce boulet-là, et je pense que il va falloir que à l'avenir on soit davantage transparent, mais je pense que on y est presque.
Actualité toujours, les députés viennent de voter l'accord national interprofessionnel, l'ANI pour les intimes. C'est un dossier important pour le mandat de Laurence Parisot. Est-ce que vous êtes satisfait de ce vote tel quel?
Bah, c'est un dossier d'abord très important. C'est la première fois depuis 30 ans que les syndicats et le patronat trouvent un accord. Donc là-dessus, on ne peut que saluer le fait que le dialogue social fonctionne. Et ça, c'est une chose extrêmement bonne. Ensuite, quand on regarde dans le détail, eh bien, il y a du bon pour les entreprises, il y a du bon pour les salariés. Donc je pense que c'est un rapport qui est équilibré, mais qui doit vivre. Qui doivent vivre dans le temps. Et ce qu'on peut se dire en première lecture, c'est que c'est plutôt pas mal pour les grands groupes. Certains grands groupes n'ont pas attendu d'ailleurs la transposition de la loi pour pouvoir l'appliquer à eux-mêmes. C'est le cas de Renault, c'est le cas de Michelin, qui aujourd'hui sont allés plus vite que la transposition de la loi. Pour les petites entreprises, pour les PME, il faut regarder ça avec un peu plus d'attention. Parce que finalement, ils peuvent passer un peu au travers des mailles de
ce c'est-à-dire.
C'est-à-dire que dans les petites entreprises, vous n'avez pas forcément de PSE, de plan de sauvegarde de l'emploi. Donc les mesures qui aujourd'hui sont des accords gagnant-gagnant qui permettent de mettre le chef d'entreprise avec les salariés, avec le syndicat ou les instances représentatives du personnel pour négocier un maintien d'emploi en échange de contrepartie. Bon, dans les petites boîtes, non. Vous êtes dans une petite société. Si vous avez une difficulté, vous allez en discuter entre vous et c'est le bon sens qui va l'emporter. Donc, finalement, ce dialogue social, il est présent dans toutes les petites et moyennes entreprises. En revanche, pour des entreprises où ce serait pas tout à fait le cas, bah, le fait qu'il y ait plein d'exemples et que ça fonctionne, avec des clauses de retour à meilleure fortune, eh bien, va donner une philosophie extrêmement positive pour les entreprises.
Actualité toujours, on enchaîne parce qu'on on va évidemment aller sur votre projet. Le rapport sur l'auto-entreprise, donc, Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, a annoncé vouloir limiter dans le temps le régime pour les personnes dont c'est l'activité principale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, paradoxalement, moi, je suis pas choqué. Fondamentalement, je suis pas choqué. Je peux comprendre les revendications des représentants des auto-entrepreneurs. Je pense qu'il faut faire attention. C'est un sujet que je ne maîtrise pas parfaitement. En revanche, j'ai envie de dire, mais le sujet est pas là. C'est comment on fait, nous, organisation patronale, pour aider les auto-entrepreneurs à faire émerger leur entreprise. Alors, vous me direz, ouais, mais attendez, il y a des gens qui veulent pas, qui sont dans une logique de rémunération, de société unique.
Bon, ceux pour qui c'est complémentaire,
cas, garderont
leurs avantages.
C'est pas leur rémunération principale.
Voilà. Et là-dessus, pour eux, ça ne change rien.
Et pour eux, ça ne change rien. En revanche, quelqu'un qui a une ambition, bah, et la logique fait qu'à un moment, il doit devenir en SARL. Enfin, vous n'êtes pas en statut d'auto-entrepreneur, je pense. Chez Widomi, vous êtes une vraie société. Puis, à un moment où, quand vous recrutez, il y a un moment où vous devez faire face à vos obligations. C'est pas choquant. Si c'est pour échapper à une pression fiscale beaucoup trop forte que je condamne, c'est pas le meilleur moyen. Parce que là, il faut pas être étonné qu'on soit rattrapé par la patrouille.
Donc, vous êtes d'accord avec les artisans qui ne sont pas satisfaits?
Alors non, ça, c'est autre chose. Parce que, auquel je suis extrêmement attentif, et là, on peut pas faire n'importe quoi, c'est de concurrencer de façon déloyale des artisans qui, eux, ont des niveaux de charge propres à leur entreprise, en SA, en SARL. Et là, c'est déloyal. Donc, il faut donner un coup de pouce à ces gens qui se lancent. Mais à partir du moment où ils viennent concurrencer des activités et sur le long terme, ah oui, là, c'est pour moi déloyal. Et ça, ça pose un problème.
Un dernier mot sur l'actualité. Benoît Hamon travaille donc sur un projet de loi visant à permettre aux consommateurs de se regrouper pour attaquer une entreprise en justice. Voyez-vous des limites à cette proposition?
Bah, d'abord, c'est un vieux serpent de mer. Chaque
Jacques
année,
Chirac,
on remet,
Thierry Breton, après, Frédéric Lefebvre.
Fondamentalement, je suis consommateur, qu'on renforce mes droits, je trouve ça plutôt pas mal. Après, bah, il faut voir les dérives. D'abord, moi, j'ai pas envie que mon pays devienne, sur la partie purement juridique, l'équivalent des États-Unis, où il y a une judiciarisation extrême, et quand on n'est pas content, on arrive à se regrouper et avoir des actions collectives qui peuvent être extrêmement dommageables. Le second point, c'est que faut faire attention que ces actions de groupe ne soient pas un moyen de faire du business pour les cabinets d'avocats, mais je connais leur honnêteté et leur intégrité en France pour que ce ne soit pas le cas. Mais il faut faire attention que la procédure aiguë ne devienne pas quelque chose de récurrent. Après, ça peut créer des dommages collatéraux extrêmement lourds pour les entreprises. Donc c'est un sujet qu'il ne faut pas traiter sous le coup de l'impulsion. Quand vous avez des entreprises qui mettent des milliards en innovation et qui sortent des nouveaux projets, j'ai pas envie de dire ils ont le droit à l'erreur, mais il faut faire un peu attention que certaines entreprises n'aient pas envie de freiner leur innovation de peur de se prendre une action de groupe qui vienne indemniser finalement 3 francs 6 sous, mais qui au regard d'une population touchée peut faire des sommes considérables et avec un impact sur l'image très fort.
Allez, parce qu'on est aussi et surtout là pour ça, parlons de votre projet, Thibault Langsade. Entreprendre ensemble, c'est donc son nom, et vous l'avez matérialisé en 6 points. Je vous laisse nous le résumer et en sortir peut-être les trois axes majeurs.
Je vais peut-être pas donner, mais les trois axes majeurs, il y a un axe qui est extrêmement important, c'est que je pense que nous avons besoin des organisations patronales pour remettre en place ce que l'on appelle aujourd'hui la stratégie filière et de la relation interentreprise et de la coopération entre les entreprises.
Concrètement, ça se traduirait
par quoi ? Concrètement, c'est quoi ? Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, ma boîte, je réponds à un appel d'offres d'une société dans la téléphonie. Les relations que je vais avoir avec cette société française, elles vont être extrêmement difficiles. On est dans une relation de partenaire, pas de partenaire, de prestataire-fournisseur. On a des négociations tarifaires économiques. On n'est pas dans une logique de stratégie et de partenariat comme je peux l'avoir avec une société en Allemagne et te dire comment on fait pour chasser du business ensemble pendant 10 ans. Donc il faut remettre un peu de cohérence et de la relation inter-entreprise. J'ai envie de donner un autre exemple parce que on pourrait tenir quasiment 3 heures sur ce sujet-là. En France, vous avez la relation inter-entreprise qui généralement arbitre les litiges sur les délais de paiement. Vous avez la relation du crédit, la médiation du crédit qui arbitre entre les banques et les PME. Puis vous avez une médiation sur les marchés publics. Alors sur les marchés publics, on va la laisser de côté. Mais c'est aux organisations patronales à le faire, et pas à l'État. Ces médiateurs, ils sont nommés par le président de la République. On est le seul pays en Europe où nous nommons des médiateurs par le président de la République. C'est plutôt aux organisations patronales d'arbitrer les différends. Mais ça, c'est un détail qui est assez caractéristique. C'est que on dit tout sauf l'État, laisser les entreprises vivre. Mais quand on a un problème, on demande recours. Ou plus exactement, c'est l'État qui s'y est proposé. Donc je pense que la stratégie filière, c'est de remettre une organisation patronale qui coordonne fortement la politique économique, filière, stratégique, avec les autres organisations patronales de branche.
C'est ce que vous appelez un MEDEF stratège, je crois.
Exactement.
Un mot, alors ça c'est la première partie, est-ce qu'il y a deux grands axes qu'on pourrait mettre en avant ?
Un autre axe, c'est que je pense qu'il faut cette fois, en tout cas dans la période que l'on traverse aujourd'hui, un MEDEF qui soit beaucoup plus en prise directe avec les réalités quotidiennes des chaînes d'entreprise, des entreprises. On a beaucoup traité de sujets sociétaux, mais je pense qu'il va falloir que l'on descende un peu plus bas, c'est-à-dire sur des questions économiques, de compétitivité, de croissance. Vous voyez, l'accord national interprofessionnel, il est pas mal. Je l'ai dit, il y a pas de sujet. En revanche, on a tiré un élastique pour encapsuler toutes les entreprises. Bon, je pense que la prochaine étape, c'est d'aller dans les branches pour faire en sorte que ces accords puissent être trouvés entre les entreprises et les branches, voire même de laisser les entreprises définir leurs propres accords avec des instances représentatives et les syndicats. Je pense qu'il faut ramener maintenant et donner la possibilité aux entreprises de mener eux-mêmes leurs propres discussions. Donc il faut qu'on soit à MEDEF plus de proximité et qu'on accompagne cette mutation de l'interprofessionnel vers les branches.
Quand on dit aller plus sur le terrain et sur les besoins concrets des entreprises, c'est leur expliquer comment exporter, les accompagner dans le développement commercial.
Vous savez, le MEDEF, il est là pour faire plusieurs choses et notamment pour représenter les entreprises et, dans le bon sens du terme, même si en France on n'aime pas beaucoup utiliser ce terme-là, faire du lobbying patronal. Lobbying patronal, c'est quoi ? Il s'exerce comment ? Il s'exerce dans les conseils des prud'hommes, dans les chambres de commerce et de l'industrie, la CNAM, dans les retraites, à l'UNEDIC. Et c'est là-dessus où nous devons convaincre, nous, des chefs d'entreprise, de défendre l'entreprise dans ces organisations-là. Donc, il y a un sujet paritaire qui est important pour le MEDEF. Et aujourd'hui, la difficulté est aussi de trouver des chefs d'entreprise qui sont en mesure de porter ce lobbying patronal.
Revenons sur la campagne en tant que telle. Jean-Claude Volo avançait la semaine dernière sur l'antenne de We Do Biz la possibilité d'un rapprochement Volo, Gattaz, Route Bézieux, Langsade.
On pourrait rajouter Saint-Jour, Monsieur Lambel, Patrick Bernasconi. Non, je pense que la discussion pour le moment, enfin la discussion, la problématique aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse réussir son entrée en campagne. Il y a des échéances, il y a un rythme, et on n'est absolument pas pour le moment dans une problématique de tickets, de tandem, parce que chacun doit exprimer au travers de sa profession de foi et sa sensibilité son projet et sa vision pour le MEDEF.
Parlons de la sensibilité, parlons de l'homme que vous êtes. Alors, qui êtes-vous, Thibault Langsade?
Alors là, d'abord, c'est plutôt les autres qui en parleront mieux. Qui je suis, j'ai envie de dire, je suis quelqu'un d'engagé. Je suis un chef d'entreprise passé par un grand groupe, par Shell, où je dirigeais, j'animais les stations-service sur autoroute. Après, j'ai fait de la PME pendant 4 ans où j'ai dirigé une société qui s'appelle Gazinox, qui était le leader français des produits de connectique pour le gaz. Et puis, en parallèle de ça, j'ai toujours eu une vie engagée au sein de mon association que j'ai créée, qui s'appelle Positive Entreprise. J'ai dirigé 2 syndicats, le syndicat européen de la connectique gaz et l'association française des établissements de paiement et de monnaie électronique. Je me suis engagé au MEDEF au travers de 2 commissions, la commission des nouvelles générations et la commission entrepreneuriat. Et puis, je me suis beaucoup occupé du Small Business Act, mais ça, on en a parlé. Ce qui est important, c'est l'engagement. Et quand on a des convictions, il y a un moment, et un peu d'ambition, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on a envie de les porter, et c'est ce que je fais pendant cette campagne.
Alors justement, à quel moment on décide de devenir candidat ?
Tout naturellement, parce que quand je me suis engagé auprès des jeunes, quand j'ai essayé de m'engager auprès des entrepreneurs, je pense y avoir pas trop mal réussi en les aidant à essayer de structurer leur levée de fonds, il y a un moment où on se dit comment on peut faire plus. Et quand on est engagé, forcément on a envie de peser, on a envie de prendre des décisions et on a envie d'exercer des responsabilités. Donc 2010, c'était déjà un peu les prémices. Là, maintenant, j'y suis de plein pied. Mais il faut être logique, cet engagement, il doit durer dans le temps. Et il est sain que dans cette campagne, il y ait plusieurs candidats. C'est même extrêmement sain. Et je vous fais le pari que tous ces candidats, bien évidemment, on les retrouvera tous derrière le président du MEDEF le 6 juillet.
Donc on rejoint un peu ce que nous disait Jean-Claude Volo la semaine dernière. Est-ce qu'il y a un modèle à Koba, l'entreprise que vous dirigez, qui peut aller servir d'exemple, utilisons les grands mots
pour
les autres
entrepreneurs ? Ça, c'est une bonne question, parce que j'ai pas eu le sentiment qu'on soit arrivé avec mon associé Julien Pagési avec un modèle de management prédéfini. Ce qui fait aujourd'hui le modèle à Koba, c'est l'engagement qu'on y a mis, l'enthousiasme qu'on a mis. On a toujours pris le soin de faire en sorte que les éléments difficiles, le stress, on puisse les contenir pour nous. C'est même difficile parfois parce que s'il faut faire en sorte que ça rejaillisse pas. On a toujours fait en sorte d'avoir des gens rémunérés à leur juste valeur. On a beaucoup de jeunes, ils sont pas au SMIC. On a tout de suite donné des complémentaires santé.
Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs.
Donc on a toujours eu avec économie souci de les rémunérer à la hauteur du marché et il y a eu un bon retour sur investissement parce qu'ils nous ont pas fait défaut. Après, je crois que le modèle Akoba, c'est un modèle où pendant 4 ans, finalement, comme une petite souris dans son labyrinthe, on s'est cogné le mur quasiment tous les jours, comme tous les entrepreneurs. Et le modèle Akoba, qui est le modèle de tous les entrepreneurs, c'est finalement résister à cette pression, à ce stress, faire en sorte qu'on aimerait que ça aille beaucoup plus vite et que c'est un saut d'obstacle permanent.
Aller plus vite, et ce sera exactement le défi que je vous propose de relever pour les questions flash. Question pratique, d'abord sur l'élection au MEDEF. Quand est-ce que c'est exactement ? Qui peut voter ? Comment ? Je ne vais pas vous demander pour qui voter.
Alors, concrètement, la campagne devrait commencer le 1er mai. Il devrait y avoir une audition devant le conseil exécutif aux alentours de mi-mai. Un vote du conseil exécutif qui va classer un peu les candidats. Donc, on va savoir un peu comment on se positionne par rapport aux autres. Mi-juin et un vote formel de l'Assemblée Générale tout début juillet.
Allez, je vous propose un jeu, en deux mots à chaque fois. Un bon et un mauvais point au sujet des différents candidats. Hervé Lambel d'abord.
Ah non, moi je peux pas donner des mauvais points, mais ce qu'il dit est intéressant.
Jean-Claude Volo.
Détermination export.
Pierre Gattaz.
Vision et stratégie.
Geoffroy Roux de Bézieux.
Un entrepreneur de talent.
Patrick Bernasconi.
Un négociateur hors pair.
Frédéric Saint-Jean.
Une vision très forte sur l'industrie.
Thibault Langsad.
Un rassembleur.
Allez, chez We Do Biz, nous aimons les histoires qui finissent bien. Est-ce que vous avez un message d'espoir pour les milliers d'entrepreneurs qui nous écoutent et on conclura ainsi?
Je pense que le message que je peux délivrer, c'est tenez bon. Il y a encore quelques mois qui vont être difficiles dans un contexte économique qui n'est pas simple. En revanche, jamais il n'y a eu autant d'instruments pour les entrepreneurs pour développer leur entreprise. Et malgré tout ce que l'on entend, c'est le moment de se lancer.
Ça y est, c'est fini. Nous étions avec Thibault Langsad, candidat aux primaires du MEDEF. En 30 minutes, il nous a exposé sa vision et quelques-unes de ses propositions. Nous aurons sûrement le plaisir de vous retrouver prochainement sur l'antenne. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Entrepreneur le Live. Merci à tous.